Vous êtes sur RTL.
RTL Midi.
Le 12-30, Christelle Rebière.
Bonjour à tous, bienvenue dans RTL Midi. Et en ce jeudi 14 janvier, comment notre quotidien va-t-il encore être bouleversé par le coronavirus? Jean Castex et cinq ministres feront des annonces à 18h. Olivier Véran promet de tester 1 million d'élèves et d'enseignants par mois. Il faut traquer le variant anglais du virus. Quant à la vaccination, les 75 ans et plus autonomes peuvent s'inscrire depuis ce matin, mais le site santé.fr a buggé. Comment les entreprises vont-elles se réorganiser en cas de couvre-feu généralisé? Je recevrai le vice-président de l'Association nationale des directeur des ressources humaines, Benoît Serre. Dans l'actualité aussi, il y a ce vaste trafic d'armes. 10 personnes ont été arrêtées, dont 2 militaires qui ont joué un rôle central au sein du réseau. Renault fait sa révolution. Le constructeur évoque une Renaultution. L'idée, c'est de vendre moins de modèles, mais plus cher pour redresser le groupe. Le nord-est du pays en prend une bonne couche. Il neige depuis ce matin dans une dizaine de départements placés en vigilance orange. Bonjour Peggy Broche.
Bonjour Christelle. C'est vrai qu'on a beaucoup de neige entre le Nord-Pas-de-Calais, l'Alsace et le territoire de Belfort. On attend 7 à 15 cm d'ici ce soir, même 20 localement. À l'ouest de cette zone neigeuse, on a une zone pluvieuse avec des pluies localement soutenues entre la Normandie et le Lyonnais. C'est toujours du soleil près de la Méditerranée, mais avec du vent. Et puis les éclaircies reviennent quand même sur la Bretagne. Partout ailleurs, un ciel avec beaucoup de nuages, quelques averses, tout ça sous des températures stationnaires de 8 à 14 degrés, sauf sur le nord-est où elles sont en baisse entre 1 et 3 degrés.
La question du jour sur RTL.fr, faut-il mettre en place un couvre-feu à 18h partout en France? Vous êtes très partagé, 48% de oui, 41% de non. Le débat s'annonce très intéressant au 32-10. Bonjour Pascal Praud.
Bonjour. Effectivement, aujourd'hui, le débat va être très intéressant avec ce qu'on attend du Premier ministre Jean Castex qui tient une conférence de presse à 18h, vous l'avez dit, et nous serons avec Benjamin Sportouche et vous pourrez évidemment lui poser toutes les questions et notamment sur la coulisse ces décisions. Faut-il interdire la chasse à courre? Question récurrente. Un cerf poursuivi par des chiens d'un équipage de chasse à courre s'est réfugié sur les rails en gare de Chantilly dans l'Oise. Mardi, le trafic SNCF a été interrompu pendant plusieurs heures. On pourra également évoquer ce qui s'est passé il y a 35 ans, le 14 janvier 86. La chanson française perdait l'un des chanteurs les plus talentueux, Daniel Balavoine. Quelle est votre chanson préférée de Daniel Balavoine? C'est une question que nous poserons aux auditeurs tout à l'heure.
Au 32-10, RTL vous donne la parole.
50 centimes la minute.
Et pour commencer, on va parler médecine, mais pas Covid pour une fois. Avec cette première mondiale, les équipes de l'hôpital Édouard Herriot et de la clinique du Parc à Lyon ont réalisé la première double greffe de la totalité des bras et des épaules sur un patient islandais. L'opération a duré 14 heures, Frédéric Perruche.
Oui, ce sont les meilleurs spécialistes de ces deux établissements lyonnais, publics, privés, qui ont réalisé cette prouesse technique. Une très longue et délicate intervention qui a mobilisé 2 équipes pour le prélèvement des membres, bras et épaules du donneur, et 2 autres pour les greffer sur le receveur, indique le journal 20 minutes qui révèle l'information. Le patient serait actuellement toujours en réanimation, c'est normal. C'est un père de famille islandais de 48 heures, ancien électricien, amputé des 2 bras il y a une 20aine d'années à la suite d'une électrocution sur une ligne à haute tension. L'homme se serait installé à Lyon en 2013 après avoir déposé un dossier de transplantation accepté, mais il a dû patienter 5 longues années avant de subir cette incroyable intervention qui s'est techniquement parfaitement déroulée. Selon nos informations, reste à savoir comment l'organisme du quadragénaire va accepter ses nouveaux membres. Pour l'heure, aucune autre précision de la part des HCL, les hôpitaux lyonnais et de la clinique du Parc sur cette première mondiale. Ils attendent évidemment de voir comment récupère le patient et ne devrait pas communiquer avant la semaine prochaine. Jusqu'à présent, seuls des greffes des bras, très rares, avaient été réalisés depuis une 10aine d'années, mais jamais bras et épaules.
En tout cas, c'est fascinant. Merci Frédéric Perruche en direct de Lyon. Il faudra être patient parce que ça va susciter un rush. C'est ce que disait Jean Castex ce matin à Metz lors d'un déplacement sur le thème de la vaccination. C'est aussi le jour où les plus de 75 ans qui ne sont pas en EHPAD peuvent s'inscrire pour se faire vacciner dès la semaine prochaine. Et le Premier ministre a fait le standard au CHU.
Allô ? Oui, madame, on va le faire.
Donc il y a 2 personnes, hein, c'est ça, madame ?
Vos parents. Alors lundi à 15h15. Lundi 18, oui, madame. Alors, on va commencer par votre maman.
Très bien, son prénom ?
Monique. Date de naissance, s'il vous plaît. Fait, donc elle est tout à fait dans la cible. Son numéro de téléphone, le vôtre. 72 ou 62, madame? 72. C'est bon. Donc, 15h15 et 15h20. Merci beaucoup, madame. Bonne journée à vous. Au revoir. Pour rester discret, ça n'a pas qu'à la fin.
Elle aurait peut-être annulé le rendez-vous. Elle aurait dit, on m'a fait une blague. Je vais me faire vacciner ailleurs.
Vous avez reconnu ou pas?
Non.
Ah, il blague le Premier ministre, mais le problème c'est qu'au même moment, le site santé.fr a été placé en maintenance. C'est ce qu'on appelle un bug, Sophie Orange.
C'est ça. Alors à quoi sert santé.fr en fait? Eh bien à trouver le centre de vaccination où vous pouvez vous rendre et prendre rendez-vous. Alors depuis ce matin, impossible d'y accéder. Message d'erreur en début de matinée. Nous avons d'ailleurs reçu de nombreux mails d'auditeurs pour nous le signaler. Depuis 11h, nouvelle indication, l'horaire précis d'ouverture du service de prise de rendez-vous en ligne pour la vaccination sera communiqué prochainement. Signe peut-être que santé.fr est pris d'assaut. Est-ce que cela signifie que personne n'a pu prendre rendez-vous? Non, car si vous connaissiez le nom du centre ou de l'hôpital, il est possible de choisir un créneau sur les plateformes Doctolib, Maya et Keldoc. En moins d'une heure, par exemple, tous les rendez-vous proposés par les hospices civils de Lyon ont été réservés pour les deux prochaines semaines. Certains centres, on vient de l'entendre, sont aussi joignables par téléphone. Autre info de la matinée, le numéro national qui devait être annoncé hier soir sera finalement communiqué tout à l'heure, lors de la conférence de presse. Mais précision, ce ne sera pas pour prendre rendez-vous, mais pour obtenir des informations générales sur la campagne de vaccination. On espère qu'il sera un peu plus robuste que santé.fr pour absorber tous les appels.
Sophie Orange. Les variants du virus changent la donne. Le comité d'urgence de l'Organisation mondiale de la santé se réunit aujourd'hui avec deux semaines d'avance. Le variant anglais est désormais présent dans 50 pays du monde, celui d'Afrique du Sud dans une vingtaine, sans compter ce nouveau variant brésilien repéré au Japon. En Chine, un premier décès vient d'être enregistré depuis 8 mois dans la province proche de Pékin, qui est confinée depuis plusieurs jours. Alors, comment empêcher le virus de circuler au mieux dans notre pays? Jean Castex fera des annonces avec 5 autres ministres à 18h. L'hypothèse qui tient la corde, Vincent de Rosier, c'est un couvre-feu à 18h généralisé à tout le territoire.
Oui, scénario qui semble se confirmer d'heure en heure. Ce sera 18h partout, 7 jours sur 7, croit savoir un conseiller. Ce couvre-feu anticipé, Olivier Véran en a vanté les mérites en répétant en boucle que les taux ont baissé partout là où il est en place depuis 10 jours, notamment dans la région Grand Est. L'intérêt, c'est aussi de contrer l'effet apéro, a dit le patron de La République En Marche, Stanislas Guérini. Ça, c'est une réponse à tous ceux qui s'interrogent sur la faisabilité de cette mesure dans les grandes villes. Pour autant, Christelle, il faut rester prudent. Les derniers arbitrages sont en cours, comme tous les jeudis. Du côté de Bercy, on se prépare aussi à durcir les règles. Je peux déjà vous dire que les contrôles vont être renforcés dans les commerces pour vérifier que les jauges sont bien appliquées. Ce qui est acquis également, c'est un renforcement des contrôles aux frontières, y compris en Europe. L'exécutif est inquiet aussi pour Mayotte. Sous la menace du variant sud-africain, les annonces sont arbitrées en ce moment même. Enfin, le gouvernement consacrera une partie longue de la conférence aux étudiants qui sont nombreux à faire part de leur détresse psychologique.
Oui, et Olivier Véran, ministre de la Santé, a déjà fait une annonce ce matin sur le dépistage à l'école.
Oui, annonce qui aurait dû être faite ce soir, mais Olivier Véran n'a pas réussi à tenir sa langue. Ce sera un dépistage massif, un protocole pour tester jusqu'à 1 million d'enfants et d'enseignants par mois, qui concernera les enfants à partir de 6 ans. Objectif, faire face à la menace du variant britannique, qui selon Olivier Véran paraît plus contagieux chez les enfants, mais pas plus dangereux. Enfin, chapitre éducation toujours, les écoles ne fermeront pas, on l'a dit, mais il ne faut pas exclure un protocole plus strict dans les cantines.
Vincent De Rosier, quelles conséquences aurait un couvre-feu généralisé sur notre façon de travailler? On en parle dans un instant avec l'invité d'RTL Midi.
RTL Midi. RTL Midi.
Avec Christelle Rebière.
Si un couvre-feu à 18h est instauré sur l'ensemble du territoire, ça va sans doute poser des problèmes d'organisation aux entreprises. Alors pour bien comprendre, nous sommes avec Benoît Serre, vice-président de l'Association nationale des directeurs de ressources humaines. Bonjour.
Bonjour.
C'est un scénario que les DRH redoutent.
On attend avec une forme d'impatience les décisions de ce soir, avec quelques points très opérationnels qui nous inquiètent, mais on verra ce que le Premier ministre va annoncer, et des points très humains en fait aussi qui nous inquiètent.
Alors, on commence par l'opérationnel, dites-nous.
Si par exemple il est décidé, comme on l'entend, de confiner à partir de 18h, de faire un couvre-feu à 18h pour tout le monde, ça signifie une désorganisation assez importante des entreprises pour ceux qui viennent sur site. Et vous savez qu'ils sont encore assez nombreux, c'est largement plus que 50% des salariés, parce que ça veut dire que les gens vont devoir partir pour certains dans les régions comme Île-de-France par exemple à 16h ou 16h30. Donc c'est une désorganisation très importante. Et le deuxième sujet, c'est ce qu'on entend également, à savoir la suppression l'interdiction des cantines dans les écoles, avec deux conséquences possibles. La première, c'est la fermeture également des restaurants d'entreprise, ce serait assez logique en fait sur un plan sanitaire.
Oui.
Et de l'autre, le fait que des collaborateurs risquent de nous dire « Attendez, moi il n'est pas question que mon enfant mange des lunchbox tous les jours de la semaine. » C'est vrai que sur un plan, c'est pas terrible pour un enfant quand même. Et donc ça aussi, ça risque de créer une forme de désorganisation avec des gens qui habitent loin du lieu de scolarisation de leurs enfants.
Ça veut dire qu'ils préféraient que leurs enfants rentrent à la maison et donc ils préféraient travailler à la maison aussi.
Oui, enfin avec deux hypothèses. Soit rentrer à la maison, ça veut dire que les parents doivent y être, au moins l'un des deux. Ou alors une nounou, mais une nounou ça coûte cher, surtout à l'heure du déjeuner. Donc voilà, et ça, en fonction des décisions qui seront prises et annoncées ce soir par le Premier ministre, on anticipe quand même une perturbation très grande de nos activités.
Et ça veut dire qu'il faudrait, dans la majorité des cas, décaler les horaires de travail ?
Ben on le fait dans certains cas, vous savez, pour éviter d'avoir trop de monde dans les transports, mais c'est pas toujours simple parce que on a découvert quand même, ou on a redécouvert, nous on n'en doutait pas, que les entreprises, leur force, c'est le fait que les gens travaillent ensemble. Donc si vous décalez les horaires de tout le monde, vous décalez le fonctionnement des équipes.
Ça paraît aussi compliqué de décaler des horaires dans les hypermarchés, hein, par exemple. On ne va pas ouvrir les hypermarchés à 7h du matin.
Alors voilà, ça c'est un autre point, parce que évidemment ça se regarde entreprise par entreprise, quasiment métier par métier. Et dans certains cas, un magasin, il ouvre de 9h ou 10h jusqu'à 20h. Alors j'imagine qu'avec le couvre-feu, il fermera à 18h. Mais là, on ne peut pas décaler les horaires de tout le monde. Alors du coup, on fait un espèce de décalage par jour en réalité. On essaye de répartir les effectifs par jour, mais ce n'est pas toujours possible parce que beaucoup d'entreprises, et c'est normal, ont un volume de salariés qui n'est pas extensible et pourtant des horaires qui sont toujours les mêmes.
Bon, après, il y a une solution qui est très simple, c'est de faire une dérogation. C'est-à-dire, c'est un petit peu de paperasse, mais finalement, ça, c'est peut-être la solution idéale pour les entreprises.
Donc la paperasse, on la maîtrise bien hein, quand même depuis le mois de mars.
Oui.
Donc ça, il n'y a pas de difficulté. Mais certes, c'est une solution temporaire parce qu'on n'a pas d'autre choix. Mais ce n'est pas une très bonne solution sur un plan du fonctionnement général de l'entreprise. Et puis surtout, si on fait des dérogations pour tout le monde, alors on peut se demander quel est l'intérêt de ces mesures de couvre-feu ou de limitation des transports si tout le monde les prend avec une dérogation. C'est vrai que s'il y a un couvre-feu à partir de 18h, de toute façon, là, on n'a pas le choix. Mmh. On est obligé de faire ça, mais peut-être que c'est des réflexions sur le terrain autour de limiter les gens qui sont là après 18h, de manière à éviter que tout le monde circule. Parce que si les gens ne peuvent pas sortir après 18h, ils iront faire leurs courses avant 18h. Donc ils partiront plus tôt de l'entreprise. Donc je pense que c'est une affaire de pragmatisme, cette affaire-là. Et que comme on a su alterner nos équipes, vous savez, on l'a beaucoup fait, ça, avec des gens qui venaient le lundi, mardi, par exemple, et d'autres le mercredi, jeudi, c'est pas idéal. Mmh. Mais peut-être qu'on pourrait maintenir ce système et nous faire confiance pour limiter le nombre de personnes au même moment, au même endroit, et donc dans les transports.
Voilà.
Et ce n'est pas la couleur que ça prend.
Soyez pragmatique, en gros, c'est le message que vous envoyez à Jean Castex à midi.
Et écoutez-nous. Et
écoutez-nous. Merci Benoît Serre d'avoir été l'invité d'RTL Midi. Une révolution culturelle baptisée Renaultution. Le constructeur automobile change de cap. Renault veut produire moins mais mieux et surtout plus cher. Cette nouvelle stratégie a été présentée ce matin, Christophe Bourou, et elle va s'appliquer aux quatre marques du groupe.
Et c'est dans un studio télé ici à la Plaine Saint-Denis, près de Paris, en visioconférence, que le nouveau directeur général a dévoilé le nouveau cap pour Renault. Conférence en anglais.
Good morning.
Et d'emblée, Luca De Meo fixe le cap, privilégier la rentabilité plutôt que les volumes. Et cela passera par l'arrivée de 14 nouveaux modèles d'ici à 2025, beaucoup plus rentables que la Clio, actuellement la plus vendue. Ce matin, par exemple, un prototype de SUV pour Dacia a été dévoilé, prototype de 7 places, mais aussi une étonnante version revisitée de la R5 qui va donc renaître en version tout électrique. L'électrique qui va d'ailleurs occuper une large place dans la gamme. Près de la moitié des nouveaux lancements, avec notamment une Mégane qui sera fabriquée à Douai. Douai qui va d'ailleurs devenir le principal site du groupe pour l'électrique. Le but pour le nouveau patron de Renault, revenir, je cite, jouer dans la Champions League. Une Renaultution pour en finir avec les pertes abyssales puisque le groupe a perdu pas moins de 7 milliards d'euros en à peine quelques mois.
Christophe Bourou, et du côté de PSA, les ventes mondiales ont chuté de près de 28% cette année, avec même une pointe à près de 58% en Chine. Mais les ventes se sont fortement redressées, en particulier en Europe, lors du second semestre 2020. Une pause et on part dans le nord-est faire des boules de neige.
RTL Midi. RTL Midi
avec Christelle Rebière.
11 départements en vigilance orange à la neige, c'est tout le nord-est du pays qui est concerné, du Pas-de-Calais à l'Alsace-Lorraine en passant par le territoire de Belfort. Retrouvons notre correspondant Samuel Goldschmidt. Samuel, vous êtes à Metz où il est déjà tombé 5 cm de neige depuis ce matin et il faut s'attendre à des difficultés dans l'après-midi.
Oui, la vague de neige va se décaler vers le sud du Grand Est et particulièrement le Haut-Rhin. D'ailleurs, la dernière information, c'est que la préfecture de ce département signale que les élèves des écoles peuvent rejoindre leur domicile pour ne pas engorger les routes cet après-midi. Dans les 4 départements de Lorraine, les transports scolaires avaient été suspendus dès ce matin. Pour l'heure, il n'y a pas de gros points noirs. Les autoroutes sont plutôt bien dégagées. Il y a quelques mesures particulières sur des points de blocage classiques connus ici. Par exemple, en ce moment, les poids lourds sont stockés à Famec et à Mont-Saint-Martin. Ils n'ont pas le droit de circuler sur le barreau d'autoroute qui va de Metz à Longwy et à la frontière belge. Il y a toujours plus de neige dans ce qu'on appelle ici le Pays Haut et rapidement des congères, même sur l'autoroute. Il y a quelques glissades et véhicules bloqués aussi dans le nord du Bas-Rhin, ce qu'on appelle l'Alsace bossue. Et d'une manière générale, ça roule plutôt bien vu les circonstances, mais attention vraiment sur les petites routes du réseau secondaire.
Et je viens de découvrir l'Alsace bossue grâce à vous. Merci Samuel.
On en apprend tous les jours.
Et oui, 10 personnes dont 2 militaires sont toujours en garde à vue dans l'enquête sur un vaste trafic d'armes. 200 armes ont été saisies après avoir servi à des trafiquants de drogue ou à des sympathisants de l'ultra-droite. Et ces 2 militaires avaient un rôle central au sein du réseau, Guillaume Chiez.
Oui, on peut même dire que sans les compétences de ces 2 hommes, le réseau n'existerait peut-être pas. Les 2 militaires sont en poste, l'un au ministère de la Défense, l'autre dans une caserne de la Meuse. Et ce sont eux qui auraient remis les armes en état de fonctionner. Car le réseau achetait des fusils d'assaut et des pistolets mitrailleurs à des collectionneurs privés, des armes démilitarisées qu'il fallait remettre en marche. Mais ce n'est pas tout. Avec l'aide d'un ancien soldat, lui aussi interpellé mardi matin, les 2 militaires se seraient chargés de trouver une partie des clients pour écouler leur stock. Ils auraient démarché des passionnés d'armes proches de l'ultra-droite. Le reste du réseau gérait quant à lui la revente d'armes auprès des narcotrafiquants.
Plus d'une tonne de résine et d'herbe de cannabis saisie sur l'autoroute A9 au péage de Saint-Jean-de-Védas du côté de Montpellier. Les douaniers ont intercepté un camion qui transportait des parties d'ascenseurs et aussi 4 palettes de cartons suspects. La valeur de la drogue est estimée à 9,5 millions d'euros. Comme chaque jour dans RTL Midi, le coup de cœur de nos correspondants en région pour un personnage, une histoire, une initiative locale. Aujourd'hui, nous partons en Côte d'Or rejoindre Raphaël Vantard. Vous êtes à Fontaine-lès-Dijon dans une entreprise qui vient de mettre au point un gilet airbag high-tech pour les motards du Dakar.
Gérard Thévenot, c'est au départ un fabricant d'ULM. À chaque accident d'un copain, il se morfond. Comment éviter ces accidents, ces gros chocs? C'est de là que vient l'idée d'un gilet airbag. Aujourd'hui, en plus des cavaliers, des voltigeurs, des skieurs, son atelier produit des équipements pour les motards du Dakar.
Donc ici, on est dans la phase finale. On va faire un gonflage de l'airbag qui permet d'être sûr qu'en cas d'accident, on n'aura pas eu de défaut dans toute la chaîne de fabrication. Bonjour messieurs. Ici, on est dans les bureaux où on fait toute l'ingénierie, c'est Xavier, l'électronicien.
Bonjour. Alors, on a une centrale électronique dans la veste du motard qui va analyser en temps réel les mouvements. Lorsque celui-ci va avoir un mouvement anormal, on va déclencher l'airbag tout simplement. Pour un motard classique, normalement, il ne s'amuse pas à sauter des dunes, à atterrir très violemment. Alors qu'au Dakar, c'est des choses qui sont très très récurrentes. Il a fallu changer complètement notre algorithme en fait pour détecter une chute qu'on a dû développer au cours de cette année.
Est-ce qu'il y a une fierté pour vous d'être présent sur le Dakar ?
C'est intéressant d'avoir des gens au Dakar qui a une grande renommée médiatique. La plus grande des fiertés, je dirais, c'est de pouvoir sauver des vies.
D'ici quelques mois, Elite, l'entreprise de Gérard, s'apprête à développer un nouveau produit innovant, un airbag pour personnes âgées pour éviter les fractures du col du fémur.
Belle histoire, Raphaël Vantard, merci. Et le Dakar s'achève demain en Arabie Saoudite. En ce 14 janvier, comment ne pas penser à Daniel Balavoine, disparu il y a 35 ans tout juste avec Thierry Sabine dans un accident d'hélicoptère sur ce qui s'appelait alors le Paris-Dakar. Ses textes, sa performance vocale, je sais que ça vous touchait aussi, Pascal Praud.
Et on pourrait évidemment se souvenir également de Nathalie Oden, qui était journaliste au Journal du Dimanche, qui était présente dans l'hélicoptère, comme de François-Xavier Bagnou, qui était également dans cet hélicoptère. C'est vrai que 86, c'est une année particulière, puisqu'en janvier Daniel Balavoine disparaît, en juin Coluche disparaît et en novembre Thierry Leluron disparaît. Donc les gens de notre génération se souviennent de cette année particulière et vous pourrez rendre hommage à Daniel Balavoine avec une question toute simple. Quelle est votre chanson préférée de Daniel Balavoine? Nous parlerons évidemment de Jean Castex et des annonces que nous attendons, de la chasse à course, c'est un sujet récurrent, mais un cerf poursuivi par des chiens d'un équipage de chasse à course est réfugié sur les rails en gare de Chantilly. Est-ce qu'il faut interdire la chasse à course? Et puis, tous ces sujets que vous pourrez aborder, notamment le couvre-feu, bien sûr, en attendant les annonces de Jean Castex, et le Covid, comme nous parlons tous les jours, comme nous en parlons tous les jours depuis de nombreuses semaines.
Et ça commence dans 5 minutes. À tout de suite. La météo, Peggy Broche, il va donc beaucoup neiger dans le Nord-Est, hein?
En effet, Christelle, vous le disiez tout à l'heure, on a 11 départements en vigilance orange neige verglas entre le Nord, Pas-de-Calais, la Lorraine, l'Alsace et le territoire de Belfort. Donc il neige depuis ce matin, ça tient au sol parce qu'en fait les températures sont bien basses et il va neiger jusqu'à ce soir, 7 voire 15 cm de neige attendu d'ici ce soir, 20 localement et peut-être même un peu plus hein, sur le sud de l'Alsace. De la neige également des 1000 mètres sur le Jura et la Haute-Savoie. Attention d'ailleurs, il y a toujours un risque d'avalanche hein, sur les Alpes du Nord. Plus à l'ouest, c'est de la pluie parfois soutenu entre la Normandie, l'Île-de-France, la Bourgogne-Franche-Comté jusqu'au Lyonnais. Le soleil, oui parce qu'il y en a toujours près de la Méditerranée, mais avec un vent fort. Et puis la Bretagne va retrouver également quelques éclaircies cet après-midi. Partout ailleurs, sur une large partie ouest du pays, ça reste couvert avec quelques pluies faibles et très localisées. Tout ça sous des températures globalement stationnaires, sauf sur le nord-est évidemment, où elles sont en baisse. 1 degré à Strasbourg et Metz, 2 à Lille. C'est plus doux ailleurs, 8 à Lyon, 9 à Paris, 10 à Toulouse, 11 à Cherbourg, 14 à Perpignan et Marseille.
Bon, et demain, moins de neige, Peggy ?
Oui, moins, et la zone surtout va se décaler vers le centre-est, alors ça restera chargé hein, des Pyrénées à l'Île-de-France le matin avec quelques gouttes. Le pourtour méditerranéen sera plus lumineux, avec toujours beaucoup de vent, ça va se dégrader entre le Var et la Corse avec des averses orageuses. Et puis amélioration quand même sur une bonne moitié nord du pays au fil des heures avec des éclaircies, sur l'ouest également le matin, et tout ça sous des températures par contre qui vont bien chuter. On pourra perdre parfois 5-6 degrés, voire plus que 0 à Lyon, alors qu'il en fera 8 hein, cet après-midi pour les maximales, 3 à Paris et 13 à Perpignan.
Donc le retour du froid. Merci Peggy. À suivre le rappel des titres, il va être 13h sur RTL.
RTL. Et appelez-nous à vous aussi pour lui rendre hommage, Daniel Balavoine, durant les auditeurs, il est 13h.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
Chacun attend la conférence de presse de Jean Castex. Alexandra est déjà avec nous. Vous êtes présidente d'une association de commerçants à Paris. Bonjour Alexandra.
Bonjour Pascal.
Le couvre-feu de 18h vous fait peur ?
Écoutez, oui, mais on n'est jamais résigné au village Fédère.
Bon, bah écoutez, vous nous direz tout ça. Christelle, le rappel des titres.
Comment prendre de vitesse le variant anglais du virus ? Le ministre de la Santé, Olivier Véran, annonce un protocole visant à tester jusqu'à 1 million d'enfants et d'enseignants chaque mois. Les élèves seront dépistés dès l'âge de 6 ans, car le virus paraît plus contagieux chez les enfants. Jean Castex fera des annonces ce soir à 18h. L'hypothèse d'un couvre-feu à 18h, généralisé à tout le pays, semble tenir la corde. Les variants du virus se répandent. Le comité d'urgence de l'Organisation mondiale de la santé se réunit aujourd'hui. Sachez aussi que le pape François et le pape émérite Benoît XVI ont été vaccinés ce matin. Une première mondiale. À Lyon, des médecins ont réalisé une double greffe de la totalité des bras et des épaules sur un patient islandais âgé de 48 ans. L'intervention a duré 14 heures. Ce père de famille avait dû être amputé à la suite d'une électrocution sur une ligne à haute tension. Soyez prudents si vous devez circuler dans le nord-est du pays où l'on attend jusqu'à 20 cm de neige en plaine. Dans le Haut-Rhin, les élèves ont quitté l'école à la mi-journée. En Meurthe-et-Moselle, les véhicules de plus de 7,5 tonnes n'ont plus le droit de circuler entre Crune et la frontière avec la Belgique. Une zone de stockage des poids lourds a été mise en place à Famec et à Mont-Saint-Martin. Les auditeurs.